n'avais encore jamais mis les pieds en Inde, mais ce pays occupait une place spéciale dans mon imagination. Peut-être à cause de sa taille, du fait qu'il abritait un sixième de la population mondiale et environ 2000 groupes ethniques distincts, et qu'on y parlait plus de 700 langues. Peut-être parce que, dans les années indonésiennes de mon enfance, j'avais beaucoup écouté les deux grandes épopées hindoues, le Ramayana et le Mahabharata, ou bien parce que je m'étais toujours intéressé aux religions orientales, ou encore parce que, à l'université, un groupe d'amis pakistanais et indiens m'avait appris la recette du dal et du keema, et m'avait initié au cinéma de Bollywood. Mais avant tout, ma fascination pour l'Inde venait du Mahatma Gandhi. Il avait eu une influence décisive sur ma formation intellectuelle, au même titre qu'Abraham Lincoln, Martin Luther King et Nelson Mandela. Jeune homme, j'avais étudié ses écrits et m'étais rendu compte qu'il mettait en mots certains de mes instincts les plus profonds, ses idées de satyagraha, attachement à la vérité, et de résistance pacifique pour éveiller les consciences, son rappel de notre humanité commune et de l'unité fondamentale de toutes les religions, sa croyance en l'obligation pour toute société, dans ses dispositions politiques, économiques et sociales, de reconnaître une valeur et une dignité égale à tous ses membres. Toutes ces conceptions trouvaient un écho en moi. Mais, plus encore que ses idées, c'était les actes de Gandhi qui me motivaient. Il avait assumé ses convictions et risqué sa vie, fait de la prison, et il s'était donné entièrement au combat de son peuple. Sa campagne pacifiste pour l'indépendance de l'Inde, qui avait débuté en 1915 et duré plus de 30 ans, n'avait pas uniquement aidé à vaincre un empire et à libérer la plus grande partie du sous-continent. C'était un repère moral, un phare pour les dépossédés et les exclus du monde entier qui entendaient conquérir leur liberté, y compris pour les Américains noirs vivant dans le Sud et soumis aux lois Jim Crow. Au début de ce voyage, Michel et moi avons pu visiter Mani Bhavan, la modeste bâtisse, blottie au cœur d'un quartier calme de Bombay, qui avait servi de port d'attache à Gandhi pendant de nombreuses années. Notre guide, une femme élégante en sari bleu, nous a montré le livre d'or que Martin Luther King avait signé en 1959 lorsqu'il était venu en Inde pour attirer l'attention sur le combat pour la justice raciale aux États-Unis et avait rendu hommage à cet homme dont les enseignements étaient pour lui une source d'inspiration. La guide nous a ensuite invités à monter à l'étage dans les appartements privés de Gandhi. Après avoir ôté nos chaussures, nous avons pénétré dans une pièce très simple, au sol recouvert d'un carrelage patiné à motifs, dans laquelle une brise légère et une lumière vaporeuse entraient par les portes donnant sur la terrasse. J'ai observé le matelas posé par terre et l'oreiller spartiate, la collection de rouets, le vieux téléphone et le bureau bas en bois, et j'ai essayé d'imaginer Gandhi dans cette pièce, frêle et brun dans son dhoti en coton blanc, assis en tailleur, écrivant une lettre au vice-roi britannique ou traçant l'itinéraire de la prochaine étape de la marche du sel. Comme j'aurais aimé pouvoir m'asseoir et parler avec lui, lui demander où il avait trouvé la force et l'imagination pour faire autant avec si peu, lui demander comment il avait surmonté les déconvenues. Et il n'avait pas été épargné. Malgré l'étendue de ses dons, Gandhi n'avait pas réussi à résoudre les profondes divisions religieuses du sous-continent, ni à empêcher sa scission. D'un côté l'Inde à dominante hindoue, de l'autre le Pakistan majoritairement musulman. Un séisme au cours duquel la violence sectaire avait fait des morts innombrables et où des millions de familles avaient été contraintes d'emporter ce qu'elles pouvaient pour s'exiler de l'autre côté des nouvelles frontières. Malgré tous ses efforts, il n'avait pu déboulonner le système de caste qui étouffait l'Inde. Pourtant, à 70 ans bien passés, il continuait à marcher, jeûner et prêcher. Jusqu'à ce jour de 1948, où, tandis qu'il allait prier, il avait été tué à bout portant par un jeune extrémiste hindou pour qui son œcuménisme était une trahison. À bien des égards, l'histoire de l'Inde moderne, qui avait survécu à de multiples changements de gouvernement, à des affrontements acharnés au sein de ses partis politiques, à divers mouvements séparatistes et à toutes sortes de scandales de corruption, était un exemple de réussite. La transition vers une économie de marché dans les années 1990 avait donné libre cours aux extraordinaires talents entrepreneuriaux des Indiens, avec comme résultat un taux de croissance vertigineux, un secteur de la haute technologie florissant et une classe moyenne en continuelle expansion. L'architecte en chef de cette transformation économique, le premier ministre Manmohan Singh, incarnait à la perfection le développement du pays. C'était un sikh, membre d'un groupe religieux très minoritaire et souvent persécuté, qui s'était hissé jusqu'au sommet de l'État, ainsi qu'un technocrate discret qui n'avait pas gagné la confiance du peuple en attisant ses passions, mais en améliorant le niveau de vie du pays tout en conservant une réputation d'intégrité parfaitement méritée. La relation que nous avions nouée était chaleureuse et productive. Même s'il pouvait parfois se montrer circonspect sur le terrain international, veillant à ne pas échauder une bureaucratie qui se méfiait traditionnellement des États-Unis, les moments que j'ai pu passer avec lui n'ont fait que confirmer ma première impression, celle d'un homme d'une sagesse et d'une droiture morale peu communes. Et lors de ma visite dans la capitale, New Delhi, nous sommes parvenus à plusieurs accords de coopération renforcés en matière de terrorisme, de santé mondiale, de sécurité nucléaire et de commerce. Je ne parvenais toutefois pas à déterminer si l'arrivée de Singh au pouvoir représentait l'avenir de la démocratie indienne ou une simple aberration. Pour notre premier soir à Delhi, Singh et son épouse, Gurcharan Kaur, nous ont invités à dîner dans leur résidence. Avant de rejoindre les autres convives dans une cour éclairée par des bougies, Singh et moi avons eu quelques minutes pour discuter en tête à tête. Sans la foule d'anges gardiens et de scribes qui nous encerclaient d'habitude, le Premier ministre a pu me parler plus franchement des nuages qu'il voyait s'accumuler à l'horizon. La situation économique l'inquiétait. L'Inde s'était mieux relevée de la crise financière que la majorité des autres pays, mais le ralentissement mondial allait fatalement brider les créations d'emplois alors que la population indienne était jeune et en augmentation rapide. Et puis, il y avait la question du Pakistan. Son refus de coopérer avec l'Inde dans l'enquête sur les attentats de Bombay en 2008, qui avait notamment frappé des hôtels, avait exacerbé les tensions entre les deux pays, en partie parce que le Lashkar-e-Taiba, l'organisation terroriste qui avait commis ces attentats, était soupçonné d'être lié au service de renseignement pakistanais. Singh avait résisté aux appels à la vengeance contre le Pakistan, mais sa retenue l'avait affaibli politiquement. Il craignait que l'islamophobie grandissante ne fasse le jeu du premier parti d'opposition, le Bharatiya Jana Party, BJP, hindou et nationaliste. « Monsieur le Président, m'a dit le Premier ministre, dans les moments incertains, la tentation de la solidarité religieuse et ethnique peut se révéler grisante, et il est très facile pour les politiciens d'exploiter ces situations, en Inde comme ailleurs. » J'ai acquiescé en me remémorant ma conversation avec Vaclav Havel lors de ma première visite à Prague, quand il m'avait mis en garde contre la vague illibérale qui déferlait sur l'Europe. Si la mondialisation et une crise économique historique alimentaient ces tendances dans des pays relativement riches, et jusqu'aux États-Unis avec le Tea Party, comment l'Inde pourrait-elle y être imperméable? Car en dépit de la solidité de sa démocratie et de ses impressionnantes performances économiques, l'Inde était toujours loin de ressembler à la société égalitaire, pacifique et durable qu'avait imaginé Gandhi. D'un bout à l'autre du pays, des millions de personnes vivaient encore dans la misère, prisonnières de villages brûlés par le soleil ou de bidonvilles labyrinthiques, tandis que les titans de l'industrie menaient un train de vie à rendre jaloux les Rajas et les Mogols d'antan. La violence, publique comme privée, était une composante encore trop importante de la vie des Indiens. L'hostilité envers le Pakistan restait le moyen le plus rapide d'unir le pays, et nombre d'Indiens s'enorgueillissaient de ce que leur nation ait développé un programme d'armement nucléaire rivalisant avec celui de son voisin, sans se préoccuper du fait que la moindre erreur de calcul d'un côté ou de l'autre risquait de déboucher sur la destruction totale de la région. Surtout, le système politique indien demeurait bâti sur la religion, le clan et la caste. Vu sous cet angle, l'accession de Singh au poste de Premier ministre, parfois présentée comme une marque des progrès faits par l'Inde dans le dépassement de ses divisions confessionnelles, était quelque peu trompeuse. Ce n'était pas grâce à sa popularité que Singh était devenu Premier ministre. En réalité, il le devait à Sonia Gandhi, la veuve de l'ancien Premier ministre Ravish Gandhi et chef du parti du Congrès, qui s'était effacée après avoir remporté l'élection avec la coalition menée par son parti et avait nommé Singh à sa place. Certains observateurs pensaient qu'elle l'avait choisi précisément parce qu'un Sikh âgé et sans assise politique nationale ne constituerait pas une menace pour son fils Rahul, 40 ans, son successeur désigné à la tête du parti du Congrès. Ce soir-là, Sonia et Rahul Gandhi partageaient notre table. Vêtue d'un sari traditionnel, Sonia était une femme remarquable d'une soixantaine d'années, avec des yeux noirs perçants et une présence aussi calme que majestueuse. Le fait que cette ancienne femme au foyer d'origine italienne, dont le mari avait été tué par un séparatiste sri-lankais lors d'un attentat suicide en 1991, ait réussi à surmonter son deuil pour devenir une importante figure politique nationale, témoignait du pouvoir de cette dynastie. Rajiv était le petit-fils de Jawaharlal Nehru, qui avait inauguré la fonction de premier ministre en Inde et était un symbole du mouvement indépendantiste. Sa mère, la fille de Nehru, Indira Gandhi, avait passé en tout 16 années à ce poste, où elle avait exercé une politique bien plus dure que celle de son père, jusqu'à son assassinat en 1984. Sonia Gandhi écoutait plus qu'elle ne parlait, veillait à se référer à Singh sur les questions politiques et faisait souvent dévier la conversation vers son fils. Il m'est néanmoins paru évident que son pouvoir était le produit de sa finesse et de sa détermination. Quant à Rahul, il semblait intelligent et sérieux, et avait la même beauté que sa mère. Il nous a fait part de ses réflexions quant à l'avenir des politiques progressistes, s'interrompant parfois pour me poser des questions sur ma campagne de 2008. Mais il avait quelque chose de nerveux, mal défini, un peu comme un étudiant qui a bien fait son travail et cherche à impressionner son professeur, mais qui, dans le fond, n'a pas les dispositions ou la passion nécessaires pour maîtriser son sujet. L'heure avançant, j'ai remarqué que Singh luttait contre le sommeil et portait régulièrement son verre à sa bouche pour se réveiller en buvant une gorgée d'eau. J'ai fait signe à Michel que le moment était venu de prendre congé. Le Premier ministre et son épouse nous ont raccompagnés à notre voiture. Dans la pénombre, Singh paraissait fragile, plus vieux que ses 78 ans. Et pendant le trajet du retour, je me suis demandé ce qui se passerait lorsqu'il se retirerait de la politique. Rahul prendrait-il le relais, accomplissant la destinée voulue par sa mère et préservant la prééminence du parti du Congrès sur le nationalisme du BJP? J'en doutais. Ce n'était pas la faute de Singh. Il avait joué son rôle en appliquant à la lettre le manuel des démocraties libérales de l'après-guerre froide. Il avait fait respecter l'ordre constitutionnel, accompli le travail quotidien et souvent technique permettant de stimuler le PIB, et élargi la couverture sociale. Comme moi, il en était venu à considérer que c'était là tout ce que nous pouvions attendre de la démocratie, surtout dans les grandes sociétés multiethniques et multiconfessionnelles comme l'Inde et les États-Unis. Pas d'avancée révolutionnaire, pas de réforme culturelle majeure, pas de remède universel, pas de réponse durable aux questions que se posaient les personnes cherchant un sens à leur vie. Rien que l'observation des règles qui nous aidaient à résoudre, ou du moins à tolérer nos différences, et des politiques qui amélioraient suffisamment le niveau de vie et d'éducation pour tempérer les plus bas instincts de l'humanité. Je me demandais si, désormais, ces instincts, violence, cupidité, corruption, nationalisme, racisme et intolérance religieuse, notre désir trop humain de dominer les autres pour faire taire nos doutes, notre condition de mortel et notre sentiment d'insignifiance, n'étaient pas trop puissants pour être éternellement contenus par quelque démocratie que ce soit. Car ils semblaient tapis partout, prêt à ressurgir dès que le taux de croissance stagnait, que la démographie évoluait ou qu'un chef charismatique décidait d'attiser les peurs et les ressentiments du peuple. Et même si je le regrettais parfois, je n'avais auprès de moi aucun Mahatma Gandhi qui puisse me dire quoi faire pour les contrer.